BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot, le mag, votre magazine RH et vie de bureau. Cette semaine, on parle de management totalitaire, celui qui est au carrefour de certains anachronismes français, RH et de certaines dérives capitalistiques anglo-saxonnes. C'est Violaine Descourrières, journaliste et consoeur à Marianne Lebdo, qui vient nous présenter son enquête, fruit de 5 ans de recherche, le management totalitaire, aux éditions Albin Michel. Ensuite, on parlera des top managers, des cadres de haut niveau, qui se font virer du jour au lendemain. Boîte à outils, comment rebondir, comment communiquer. Ces deux experts qui viendront nous éclairer, c'est Pierre Fouque du Parc, associé au cabinet de chasse Boyden, puis un expert en communication, Éric Julli, à la tête du cabinet de conseil en stratégie et de communication Clé. Et puis pour finir, un peu de sérénité, on va découvrir le concept d'écologie d'intérieur avec Marie Kéru, la fondatrice du cabinet La Rangeuse. On va parler de comment mettre un petit peu d'ordre dans votre vie professionnelle et au bureau. C'est tout de suite, c'est Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Le sujet de la semaine, c'est le management totalitaire. Oui, c'est ces mots-là qu'on va utiliser avec mon invité, c'est Violaine Descourrières. Bonjour Violaine.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes l'auteur de ce livre que je vous montre pour ceux qui nous suivent à la télé. C'est le management totalitaire aux éditions Albin Michel. Avec vous, on plonge dans l'entreprise. Pas la plus belle phase de l'entreprise, on va le dire. Vous avez mené une enquête pendant 5 ans. C'est une enquête terrain. Décrivez-nous votre quotidien pendant 5 ans pour faire naître ce livre.
Oui, alors le point de départ, déjà la genèse de cette enquête, c'est quand moi-même j'ai été salariée. Donc je travaillais dans une agence de communication et c'était il y a 7 ans. Et donc je sortais d'une école un peu type école de commerce. J'étais très fière, j'étais très heureuse d'intégrer cette agence de communication qui était dans le 8e arrondissement de Paris. Et j'ai eu mon premier enfant. Et à mon retour de congé maternité, j'ai été convoquée un jour par le DRH, qui était un DRH de transition, parce que nous étions dans une période de réorganisation. Mmh. Et il m'a convoquée avec une manager et ils m'ont demandé d'accepter une rupture conventionnelle sous peine d'être licenciée. Et dans leurs arguments, il y avait des choses qui étaient fausses. C'est-à-dire, ils me disaient, mais les personnes disent que tu travailles mal, mais c'était des personnes que je ne connaissais pas. Donc cet épisode m'a sidérée. Et ensuite, par la suite, j'ai vu des personnes autour de moi, des amis qui sortaient d'écoles un peu prestigieuses et puis qui ont été sous médicaments, ont fait des burn-out. J'ai trouvé que ça faisait un peu beaucoup. Et ce qui a déclenché ce livre, c'est lorsque j'ai un ami qui a fait un burn-out et lorsque sa femme a appelé son manager pour savoir pourquoi il l'avait harcelé, ce manager a répondu, c'était le process. Je me suis dit, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de déresponsabilisation dans l'entreprise.
Déresponsabilisation, harcèlement, totalitaire, on utilise des mots qui peuvent faire peur. Alors ici à BFM Business, on est dans le monde de l'entreprise avec les côtés positifs et les côtés négatifs qu'on essaye d'aborder au quotidien. Une des choses qu'on peut retenir de votre livre, c'est l'exercice de différenciation que vous faites entre la recherche d'efficacité et l'idéologie de la performance qui explique, qui justifie, qui entraîne beaucoup des comportements que vous qualifiez de totalitaires dans ce livre. Expliquez-nous la différence entre ces deux termes, recherche d'efficacité versus idéologie de la performance.
Oui, alors là-dessus, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que j'ai été beaucoup voir des patrons et des anciens PDG. Et surtout, ce qui m'a étonnée, c'est qu'ils ont vraiment souligné le mot totalitaire. Donc pour eux, en l'espace de 30 ans, on a vraiment eu un basculement vers une dérive qui est justement que jusqu'à présent, on était dans une recherche d'efficacité qui est bonne, qui est importante, mais qui était une recherche sur le long terme. Mmh. Et c'était une stratégie.
C'était quoi le long terme?
Eh bien, c'était sur... Alors, on avait l'horizon à plusieurs années, on avait l'horizon à l'année prochaine, et puis on avait l'horizon pour les 6 mois prochains, vous voyez? Donc là, c'était une recherche d'efficacité, mais qui était saine, qui permettait en fait de déployer l'entreprise. Et en l'espace de 30 ans, des PDG comme Henri Proglio, donc ancien PDG d'EDF et Veolia, ou Henri Lachmann, ancien PDG de Schneider Electric, me racontent comment l'étau financier s'est resserré et comment leur vision s'est brouillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont maintenant une vision que trimestrielle. Henri Lachmann, qui est quand même une personnalité incontournable, ancienne personnalité du monde des affaires, me dit Les actionnaires d'aujourd'hui sont des terroristes, ce sont des spéculateurs et la responsabilité du PDG est de ne pas se laisser terroriser. Ces mots sont forts. Donc l'efficacité, c'est les compétences. Et l'idéologie de la performance, c'est le comportement. C'est lorsqu'on demande aux salariés, pour tenir cette pression, de ne pas seulement être compétent, mais également d'adopter un comportement qui englobe tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire à la fois d'aller faire du sport, d'avoir du développement personnel, d'avoir un quotient émotionnel qui soit élevé. C'est vraiment tous ces plans qui font que l'entreprise devient totalisante.
Vous parlez de la sélection par le comportement. Je trouve ce concept tout à fait éclairant. On sélectionne les salariés à l'intérieur du cadre de l'entreprise, à l'intérieur du cadre professionnel, dans le B2B, par leur comportement global. Alors, c'est la période des entretiens annuels dans beaucoup d'entreprises. Vous parlez aussi de pratiques d'évaluation totalitaire. Donnez-nous quelques exemples des pratiques d'évaluation qui sont très questionnables, que vous avez pu observer au long cours dans cette enquête.
Oui, alors donc j'ai vraiment été interviewée tout le monde, hein, des inspecteurs du travail, des managers, des membres de COMEX. Donc je vais vous citer le membre d'un COMEX qui me disait, mais en fait jusqu'à pas si longtemps on licenciait quelqu'un quand on avait tout essayé. Aujourd'hui, on licencie systématiquement à la suite des revues de performance. Mmh. Et donc c'est cette phrase que je trouve assez intéressante et que j'ai entendue de multiples reprises. Donc ces méthodes contestable. Alors, il y en a plusieurs. Donc, dans des PME, c'est une méthode un peu artisanale. Je l'appelle le balance scorecard. C'est le mot anglais. Donc, ça veut dire qu'on va demander aux salariés toutes les semaines de lister ses réussites, mais aussi ses échecs et ses difficultés. Et lorsque le salarié est évincé, le manager ressortira les mails qu'il aura lui-même écrits avec ses échecs et ses difficultés. Alors après, dans les grandes entreprises, dans le CAC 40, on a une méthode qui s'appelle le ranking. Donc c'est un classement où les salariés sont classés en trois catégories. Il y a les hauts potentiels, donc ceux qui sont très bons, les médians et les faibles contributeurs. Quasiment toutes les entreprises du CAC 40 font cette classification. Vous avez des entreprises qui le font plutôt bien. C'est-à-dire, si la personne travaille vraiment bien, elle est bien notée, etc. Mais vous avez des entreprises en France, je pense notamment à l'entreprise Sanofi Aventis en 2017, qui vont faire des quotas. C'est-à-dire qu'ils vont décider en amont des quotas de mauvais contributeurs qui vont être ensuite évincés.
Donc, et non pas formés ou augmentés ou aidés à déployer leur potentiel.
Exactement. Et donc, cette pratique, c'est une pratique qui vient des États-Unis, de l'entreprise Microsoft. Et donc, cette pratique de quota, c'est-à-dire d'imposer un pourcentage, par exemple, vous allez dire, dans notre entreprise, vous allez mettre 10% des personnes de votre équipe dans les mauvais. Ce qui permet, en fait, d'adapter la masse salariale au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et bien, cette méthode, elle a été interdite par la Cour de cassation en 2013. Mais en 2017, une entreprise comme Sanofi l'a pratiquée encore. Et aujourd'hui, les syndicats me confirment qu'on a des entreprises qui continuent de pratiquer.
Voilà, je vous renvoie vers ce livre, Le management totalitaire de Violaine Descourrières aux éditions Albin Michel. On apprend 1000 choses, on se regarde aussi un peu différemment après l'avoir lu quand on évolue dans un grand groupe, mais aussi dans une PME. Pour résumer, on est dans la critique au sens propre des mauvais points de la culture anglo-saxonne capitalistique et aussi quand même aussi de cette culture française, de notre culture française, notamment de la hiérarchie. Le mélange des deux fait une assez mauvaise mixture, on va dire. Je vous renvoie vers ce livre. Merci beaucoup Violaine d'être venue en parler avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne L'Hebdo, Marianne, et puis l'auteur de ce livre, Le Management Totalitaire. Restez avec nous, on va continuer à parler de top management, notamment les cadres de haut niveau qui se font virer du jour au lendemain. Comment rebondir? Comment se refaire la cerise? On en parle dans quelques minutes. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Notre sujet sur la table, ce sont les patrons, les patronnes qui se font débarquer du jour au lendemain. On va se demander comment rebondir, comment communiquer dans cette situation quand on est top manager et qu'on se fait dégager, pour le dire un petit peu vulgairement. Pour discuter de ce vaste sujet, je suis entourée de deux personnes. La première, c'est Éric Juilly. Bonjour Éric.
Bonjour.
Vous êtes président du cabinet de conseil en stratégie et communication clé. Et en face de vous, nous avons Pierre Fouque du Parc. Bonjour Pierre.
Bonjour Lorraine.
Associé Bonjour. Au cabinet de chasse de tête Boyden. Vous l'avez compris, on va être un peu une boîte à outils dans les 10-12 prochaines minutes dans ces situations qui sont diverses. On peut se faire virer, on peut se faire éjecter pour plein de raisons. Alors j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn et je vais vous faire voter Eric et Pierre. Si on se fait débarquer du jour au lendemain, quand on est top manager au masculin ou au féminin, quelle doit être notre priorité ? 1. Absorber le choc. 2. Sauver ce qui peut l'être. 3. Compter sur son réseau. Ou 4. Penser le futur. Pierre, pour démarrer.
Absorber le choc, faire le deuil, se reconstruire, comprendre qu'un échec, c'est pas un naufrage, mais c'est un apprentissage. Et ensuite, activer son réseau.
Et vous, Eric ?
Avant cela, il me semble que j'étais assez d'accord avec l'idée de sauver l'essentiel ou de sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire sous deux aspects, négocier éventuellement les conditions de départ, parce que on peut le faire qu'une fois, et deuxièmement, discuter justement de la communication qu'on va faire du côté de l'entreprise comme du côté du manager. Et pour le manager, c'est évidemment très important les conditions dans lesquelles son départ est annoncé.
Alors, on va y revenir en détail. Je vous donne le résultat sur LinkedIn. Ma communauté est plutôt optimiste, visiblement, à 47%. La priorité, c'est penser le futur. Alors, d'abord, essayons d'envisager les différentes situations. Se faire débarquer quand on est top manager, ça peut être la conséquence de plusieurs situations. Listez-nous les cas, Eric. Ouais,
c'est-à-dire que par rapport à la communication notamment, il y a plusieurs cas effectivement. Le premier, c'est un actionnaire qui contrôle complètement l'entreprise et qui prend une décision qui effectivement peut être assez rapide et brutale. Mais il y a d'autres situations. Il y a des situations où, dans des entreprises où l'actionnariat est peut-être un peu moins figé, si je puis dire, ou stabilisé, notamment les entreprises où il y a l'État comme actionnaire, où là, les choses deviennent publiques avant même les décisions. Et parfois, il y a des espèces de campagnes pour ou contre le maintien du PDG ou du directeur financier, ce qui, évidemment, en termes de communication, met les situations. Il y a d'ailleurs des PDG qui font campagne pour leur maintien. On en a vu quelques exemples. Monsieur Faber, par exemple, chez Danone, ou Isabelle Cochet pour Suez. Et puis, alors, il y a le troisième cas. C'est celui de la crise, c'est-à-dire où il y a une crise tellement brutale que le PDG ou le directeur général sert de en quelque sorte de fusible ou de première décision. Et là, évidemment, on est non seulement on perd son poste, si je puis dire, mais en plus on est considéré comme une espèce de responsable de la crise. Donc, évidemment, en termes de réputation et de rebond futur, c'est un cas plus difficile.
Oui, j'ajouterais à ce que vient de dire Eric, puisque vous parliez de l'État dans le capital. Il y a également les fonds activistes dans le capital, Danone avec Faber. Il y avait quand même des fonds activistes dans le capital de Danone, et donc ça a joué.
Alors justement, je vous pose la question à tous les deux, et notamment à vous, Eric, spécialiste en communication. Qui doit communiquer en premier ? Est-ce qu'il faut que l'entreprise qui expulse prenne la main, ou au contraire, le salarié ? Est-ce qu'il y a une règle ? Qu'est-ce que vous observez, Eric ?
Il n'y a pas de règle. Je ne pense pas qu'il y ait de règle. Ce qui est important, alors si je me place du point de vue du salarié et même de l'entreprise, c'est qu'il y ait une communication qui ne soit pas dissonante. Et donc, plus on peut arriver à un accord, souvent d'ailleurs les négociations de départ, il y a une partie importante qui est consacrée à comment on va communiquer, et si on peut arriver à une communication concordante, qui peut être faite pratiquement en même temps, c'est mieux. Alors souvent quand l'entente, si j'ose dire, est bonne, on laisse le président annoncer lui-même son départ parce que
ça donne la passe.
Un côté plus volontaire, et ça peut lui permettre de dire plus facilement qu'il a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière, comme on dit, ou d'aller vers de nouveaux projets. Parfois, c'est quasiment en même temps, mais plus important que le moment, je pense que c'est d'arriver à une concordance pour qu'il n'y ait pas de dissonance dans les explications, et à partir de là, de polémiques potentielles.
Alors, on prépare le futur, vous avez entendu le résultat de notre sondage. Du coup, Pierre, comment on fait pour rechercher un poste quand on est dans ce processus de sortie, d'expulsion ? Est-ce qu'on doit le faire en toute discrétion ? Comment on s'en sort ? Et comment quand on est un cadre de haut niveau, c'est différent de quand on est monsieur ou madame, tout le monde ?
Quand on est en poste, on ne peut rechercher que de manière confidentielle. Donc, on va solliciter des chasseurs de tête qui ne voient que 20% du marché. Hein. Sur 10 recrutements de dirigeants, il n'y en a que 2 qui sont faits par des chasseurs de tête. Quand on n'est plus en poste, on est désinhibé, il faut en profiter. On est délesté, si vous voulez. Donc il faut en profiter, il faut activer son réseau. J'en profite pour dire que le réseau, c'est quelque chose qui se construit quand on n'en a pas besoin, pour l'activer quand on en a besoin. Donc un dirigeant doit avoir construit son réseau le plus tôt possible et donc l'activer. Non, il faut être désinhibé, il faut être omnicanal. Là, il faut vraiment être omnicanal. C'est d'ailleurs parfaitement ce qu'a fait Grégory Rabuel, hein, le président d'Altice. Hein, il a vu, quand il est sorti d'Altice, il a vu beaucoup de monde et il a rebondi dans un endroit qu'il aurait peut-être pas imaginé. Vous voyez.
Est-ce qu'il faut toujours communiquer, Eric? Est-ce que parfois rester silencieux, c'est bien? Et est-ce que parfois les enjeux financiers justifient qu'on reste silencieux ou qu'au contraire on communique?
Alors, c'est chaque cas est un cas particulier, bien sûr. La logique et l'intérêt, je pense, bien compris, du chef d'entreprise ou du cadre très supérieur, c'est de ne communiquer qu'à minima sur quelque chose, comme je le disais, plutôt en accord avec l'entreprise, sur une explication assez sobre, changement de stratégie, changement de volonté de l'intéressé d'aller vers de nouveaux projets. Bon. Et donc, à partir de là, de se positionner dans un accord. Il peut arriver qu'il y ait des divergences, qu'on n'arrive pas à cet accord sur ces choses-là, et ça, le fait de communiquer ou de commencer à communiquer peut parfois aider à faire avancer les négociations sur les différents aspects, notamment sur le volet financier, puisqu'il y a, de part et d'autre, il y a un pouvoir de nuisance, si je puis dire, mais globalement, il faut quand même considérer que l'entreprise est toujours plus forte que l'individu. Hein, donc l'individu n'a pas intérêt à chercher le conflit pour le conflit. Il faut vraiment, uniquement s'il est acculé.
Pierre, est-ce que les top managers, les cadres de haut niveau, au masculin et au féminin, sont des bons candidats, justement, au replacement? Est-ce que c'est une matière facile à travailler quand on est chasseur de tête? Est-ce que c'est des bons candidats?
Oui, c'est des bons candidats. Ils sont pas toujours bons en entretien de recrutement. D'abord parce qu'ils en ont pas passé beaucoup. Et plus ils sont de haut niveau, moins ils arrivent préparés aux entretiens souvent. Ils doivent être très préparés aux entretiens parce que quand ils vont rechercher un travail, ils vont être en concurrence avec un poste de dirigeant, ils vont être en concurrence avec la terre entière. Et ce qu'on attend dans un entretien de recrutement de dirigeant, c'est qu'il arrive lancé. C'est qu'il arrive avec des débuts de solutions pour le cas de l'entreprise qui veut l'embaucher, des débuts de solutions qu'il doit pas exprimer avec certitude, mais qu'il doit exprimer sous forme de questions intelligentes. Et puis on voit de temps en temps des dirigeants faire des candidats de dirigeants faire des fautes bêtes, par exemple poser des questions dont les réponses sont publiques ou existe sur le site ou dans des rapports d'investisseurs. Donc ils doivent faire preuve d'humilité, ils doivent pas insister sur leur CV. Leur CV, il est connu, donc c'est pas la peine de réciter leur CV. Ils doivent vendre ce qui va faire la différence. Et ce qui va faire la différence, c'est leur capacité managériale, c'est leur capacité à inspirer un groupe, et c'est là-dessus qu'ils doivent porter leur discours pendant leur entretien de recrutement, et non pas réciter leur fait d'armes.
Pour avoir connu ces situations à titre personnel, un entretien d'embauche, ça se prépare. Mais ce qui est effectivement, qui rejoint ce que disait Pierre, parfois un peu ambigu, quand on fait appel à son réseau, on n'a pas forcément un entretien au départ pour lequel on arrive en disant « j'ai vu que vous cherchez un directeur général et voilà ce que je ferai moi si vous me confiez cette responsabilité ». Parfois on est plus, même souvent, en tout cas dans une première phase, plus dans je cherche ». Et donc là c'est très important, je crois, de montrer qu'on a fait le deuil de la fonction précédente, qu'on n'est plus à dire nous en parlant de son ancienne entreprise, et deuxièmement qu'on a effectivement une certaine vision des projets, des idées. Il faut vraiment arriver avec quelque chose qui, je suis tout à fait d'accord, qui soit pas de simplement dire regardez tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc j'arriverai bien à faire autre chose, mais j'ai des idées, je m'intéresse à tel type de problématique, dans cette première phase où on cherche un peu dans le vide. Et puis alors après, il y a des, les choses se resserrent. Il y a effectivement des propositions, ou en tout cas des postes plus précis qui sont évoqués. Et là, effectivement, il faut arriver avec des idées et avoir préparé. C'est très fatigant et très prenant de chercher un poste, surtout pour tout le monde. Hein, mais à ces niveaux-là, particulièrement, parce qu'on a en face de soi des interlocuteurs qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont suroccupés et dont il faut capter l'attention et à qui il faut donner l'envie d'essayer, hein, l'envie d'avoir envie. Bon,
pour conclure cet entretien trop court, hélas, mais peut-être qu'on abordera à nouveau ce sujet, Éric Pierre, je voudrais rebondir sur l'entretien avec Violaine Descourrières tout à l'heure. Nous parlions de management totalitaire et notamment de l'ambiguïté en France entre certains archaïsmes très franco-français d'un côté et une dérive anglo-saxonne notamment, on parlait des actionnaires. Est-ce que vous avez dans vos carrières rencontré déjà des victimes de management totalitaire en haut de l'échelle? Est-ce que il y a un conseil à donner dans cette situation pour les top managers, Pierre? Question pas facile.
Ouais, pas facile. Oui, bien sûr que j'en ai rencontré. Ils disent souvent, d'ailleurs, qu'ils ont été victimes quand ils sont sortis, qu'ils ont été victimes de souvent d'un management totalitaire. Un conseil à donner? Non, je pense que c'est de garder. Oui, c'est d'être très cohérent et de garder un cap. Et voilà. Et comme ça, ils pourront après justifier qu'ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas alignés avec la stratégie.
Droit dans leurs bottes.
Voilà. Droit dans leurs bottes. Et...
Éric, le mot de la fin.
Ce que j'ai, moi j'ai, à titre personnel aussi, souffert de cette espèce de motto des anglo-saxons qui est ce qu'on appelle l'action plan. C'est-à-dire qu'on vous fait faire un budget qui est trop ambitieux, dont vous dites qu'il est trop ambitieux. Deuxième temps, évidemment, vous ne réalisez pas les performances qu'on vous a imposées de budgéter. Et à ce moment-là, on vous demande un action plan. Et il y a une espèce de tyrannie parce que dès le mois d'après, il faudrait que l'action plan est délivré. Or, on gagne pas un client en quelques semaines. Quand on doit le faire, on ne se sépare pas du personnel en quelques semaines.
En un mois, oui.
Et donc, on est en permanence avec cette espèce de stress. Qu'est-ce que tu fais? Justifie que tu fais. Voilà. Et ce qui est en tant que manager, très très difficile à supporter parce que on fait, c'est difficile de faire, et passer son temps à se justifier qu'on est en train de faire ce qui est difficile de faire, c'est une peine supplémentaire, si je puis dire.
C'est faire savoir et savoir faire en même temps. Merci beaucoup, messieurs. Je merci Pierre Fouque du Parc, associé au cabinet de chasse Boyden, d'avoir été avec nous. Merci Éric Julien, président du cabinet de conseil en stratégie et de communication Clé. Vous voyez, on aborde tous les sujets dans Happy Boulot. Restez avec nous. On va parler d'écologie interne, d'écologie intérieure et de mieux consommer pour conclure cette émission.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le labo RH.
Dans notre laboratoire RH de la semaine, je vous apporte un peu de quiétude. C'est Marie Quéruc qui est avec moi. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice du cabinet de conseil La Rangeuse. La Rangeuse parce que vous luttez contre notamment la pollution visuelle, mentale et environnementale. Avec vous, on avance vers une écologie d'intérieur. Donnez-nous une définition de l'écologie d'intérieur.
Alors, l'écologie d'intérieur, c'est une analogie à l'écologie. L'objectif, c'est d'interroger notre rapport à l'objet dans notre espace, dans notre environnement, soit de vie, donc la maison, soit notre environnement de travail, donc le bureau, et l'environnement au sens large, donc la nature et notre impact sur la nature.
Comment vous accompagnez des salariés, on va se mettre d'un point de vue B2B, d'un point de vue professionnel, vers ce chemin de parcimonie, d'écologie dans leur lieu de travail, que ce soit d'ailleurs un bureau d'entreprise, un bureau partagé ou peut-être du home office, du travail de la maison?
Oui, alors en fait, moi, je travaille avec les entreprises, je travaille avec les grandes entreprises, les PME ou les start-up, qui ont trois objectifs aujourd'hui, hein, forcément, un objectif d'attractivité, un objectif de cohésion et un objectif d'alignement. Donc, on travaille soit avec des conférences sur l'écologie d'intérieur, pour vraiment interroger nos pratiques et avoir l'occasion, en groupe et individuellement, de s'interroger sur les ressources qui sont vraiment nécessaires pour faire notre travail et peut-être plus largement sur la façon dont on peut créer de la valeur plutôt que du volume et ne plus participer au toujours plus de notre société de surabondance. Et puis je travaille aussi en atelier, donc là où on met en pratique les principes de l'écologie d'intérieur. Donc très concrètement, on va trier, réorganiser, réaménager lorsque c'est possible les bureaux, avec comme objectif, dans le contexte de la grande démission et de la vraie problématique qu'ont les DRH en ce moment, de se dire mais comment je vais donner envie à mes salariés de revenir au bureau et comment, de manière plus large, je vais, au niveau de ma marque employeur, attirer et retenir les talents. Ben là, on va travailler sur ces aspects-là pour recréer du plaisir autour et du bien-être autour du cadre de travail.
Donnez-nous 2-3 conseils pragmatiques que vous avez donnés au cours des 6 derniers mois à des entreprises, à des DRH, à des patrons, des patronnes, pour apporter un petit peu d'écologie d'intérieur dans leur entreprise.
Ce qui est important déjà, c'est de retravailler une forme d'alignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une entreprise qui a des valeurs, une entreprise par exemple Bicorp, une entreprise à mission, cette entreprise, elle se doit de mettre en cohérence ses actes avec son discours. Et donc, le bureau, il devient le reflet de la sincérité de son engagement. Donc, la première des choses à faire, c'est de se questionner sur son engagement et de se questionner effectivement sur le bien-être qu'on souhaite apporter à ses salariés. Puis derrière, c'est un protocole moi que j'ai mis au point, qui s'appelle le protocole de l'écologie d'intérieur, qui est en 5 étapes et qui permet très concrètement de se donner les moyens de commencer quelque part, mais ça pose une petite graine qui va en fait beaucoup plus loin que simplement une réorganisation des bureaux, puisque ça va interroger globalement nos pratiques au travail et globalement nos pratiques dans la société.
Voilà le concept d'écologie d'intérieur, une philosophie pour mieux organiser ses espaces, mais aussi sa manière de travailler, et mieux travailler et mieux consommer, y compris au bureau. Merci beaucoup Marie Kéru de nous avoir introduit ce concept. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Vous allez retrouver cette émission sur notre plateforme de vidéo à la demande, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes. On sera là la semaine prochaine avec un nouvel épisode Vie de Bureau, Management, Recrutement. Merci à toute l'équipe et à très vite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.